Bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci à Pierre Saint-Garavelou de venir ce soir nous présenter l'histoire du monde au 19e siècle, cet ouvrage qui vient de paraître. Alors, on excuse Sylvain Venner qui n'a pas pu être présent avec nous. Alors, Pierre Saint-Garavelou, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous êtes connu pour avoir été l'auteur de Professer l'Empire, les sciences coloniales sous la Troisième République, mais aussi pour avoir été l'un des contributeurs d'un livre dont on a déjà beaucoup parlé, qui était l'histoire mondiale de la France. Ici, ce soir, vous êtes ici pour nous présenter cette histoire du monde au 19e siècle. C'est un ouvrage collectif dont vous avez assuré une direction scientifique avec Sylvain Venner. Cet ouvrage qui s'inscrit dans une sorte d'appréhension de la globalité par les historiens français, une équipe nombreuse, diverse, rajeunie, qui fait autant la place à l'expérience historique française qu'un petit peu à la jeune génération. Et ce soir, donc, nous allons parcourir et découvrir un petit peu ce livre tous ensemble, si vous le voulez bien. Alors, dans un premier temps, on va parler ensemble. Je vais vous poser quelques questions avant, bien sûr, de laisser la parole à la salle sur l'ouvrage et les thématiques qu'il développe. Alors, dans cet ouvrage, je crois que le grand intérêt, Histoire du monde au 19e siècle, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce siècle, finalement, qui est quand même connu pour être celui de l'industrialisation, de la colonisation, de grandes découvertes scientifiques, c'est la fin de la cartographie du monde, c'est aussi le siècle de la machine à vapeur, vous en livrez finalement, avec un titre somme toute très classique, mais en même temps très original, un autre 19e siècle. Et donc, j'aurais envie de commencer par là. Finalement, c'est quel 19e siècle vous avez eu envie de nous donner et d'écrire?
Merci, Guillaume. D'abord, merci à vous d'avoir accepté d'animer cette soirée. Je veux remercier également Pierre Coutel et Jean-Marc Bourlard pour leur invitation. J'étais venu déjà en février dernier pour parler de cette histoire mondiale de la France. Et donc, je vais tâcher de répondre à cette vaste question. Quel 19e siècle? Vous l'avez dit, le 19e siècle, on croit bien le connaître. Bon. C'est ce que vous avez commencé à nous présenter, c'est ce siècle, le grand siècle de l'expansion coloniale, le siècle de l'évangélisation, de la christianisation d'une grande partie du monde, c'est le siècle du développement des villes, de l'urbanisation, nous l'avons tous appris à l'école, c'est le siècle de l'industrialisation aussi d'une grande partie de la planète, etc. C'est-à-dire, c'est le siècle de la modernité. C'est le mot-clé, le concept-clé de l'historiographie, des historiens. C'est pourquoi nous considérons généralement que le 19e siècle n'est pas un siècle comme les autres, notamment en Europe, et en particulier en France, où se sont développées des études 19e-istes, précisément depuis la fin de ce 19e siècle, puisque ce 19e siècle, il a ceci de particulier... que c'est le premier siècle au cours duquel un certain nombre d'habitants, en l'occurrence des élites européennes et puis nord-américaines d'abord, ont eu conscience de vivre au 19e siècle, puisque dès la Révolution française, nous avons des textes qui témoignent de ces sentiments que l'histoire s'accélère, qu'il y a une fuite en avant, et différents auteurs parlent de ce siècle à venir, qu'ils dénomment le 19e siècle, c'est le premier siècle à se doter d'un numéro. Puisque auparavant, on ne parlait pas de 18e siècle au 18e siècle. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Donc ce siècle a conscience de lui-même d'une certaine façon, et en même temps, lorsqu'on regarde les choses d'un peu plus près, en l'occurrence, ça concerne qu'une toute petite partie des habitants de cette planète, comme je le disais tout à l'heure. Et au fond, notre monde au 19e siècle, c'est précisément de prendre au sérieux cette idée de monde, c'est-à-dire d'élargir la focale, de tenter non pas de réviser l'histoire, ça n'est pas une histoire révisionniste, c'est une histoire qui entend être tout simplement plus complète, c'est-à-dire non pas réécrite, mais augmentée, tout simplement, en élargissant la focale, c'est-à-dire en cessant de se focaliser exclusivement sur le point de vue européen qui a été le nôtre pendant très longtemps, ou occidentale, entre guillemets, puisque très rapidement, l'Amérique du Nord joue un rôle déterminant dans le devenir du siècle et du monde, à partir notamment de la deuxième moitié du siècle, de la période, eh bien, il s'agissait de réenvisager ces grandes questions que vous avez évoquées, la colonisation, les transports, la communication, la révolution industrielle, etc., en inversant les perspectives, en les envisageant cette fois non pas à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde entier. Et on se rend compte que ça a été le cahier des charges que nous avons proposé à cette centaine d'auteurs qui ont été mobilisés. On se rend compte que ce changement d'échelle, parce que en réalité, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire globale, qui est un grand mot pour dire simplement que nous changeons d'échelle d'analyse et nous les faisons varier de l'échelle globale, nationale, régionale, internationale, mondiale, impériale également, tout simplement pour essayer d'étudier les mêmes phénomènes, mais avec des points de vue légèrement différents. En quoi ce changement d'échelle, eh bien, modifie notre appréhension des choses. Voilà. Et on se rend compte que, bon, ça ne les modifie pas forcément, mais il se trouve que pour les grands thèmes que vous avez évoqués, eh bien, ça nous permet tout de même de nuancer un certain nombre de choses concernant l'histoire européenne et d'apprendre des choses que nous ignorons sur le reste du monde.
D'accord. Alors, effectivement, comme vous l'avez bien précisé, le 19e siècle, c'est le premier siècle qui se donne un numéro. Alors, pour le moderniste que je suis, effectivement, plutôt sur le 17e, effectivement, c'est le premier siècle qui se donne un numéro. C'est aussi un siècle qui a la conscience d'une forme de modernité. Et finalement, histoire du monde au 19e siècle, vous, en partie, vous déconstruisez un peu une forme de la modernité dont elle s'est définie à l'occidental. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu cette idée, finalement, qu'est-ce qui est moderne? Est-ce que le siècle qui s'est défini comme étant le 19e et qui a voulu être moderne dans sa définition, dans la manière dont il se concevait, finalement, en quoi est-ce qu'il était peu ou pas moderne? Ou à l'inverse, en quoi il était moderne?
Alors là encore, c'est une question massive à laquelle l'ouvrage ne répond pas véritablement, ou du moins pas directement. Elle nous offre, enfin, l'ouvrage nous offre des pistes, des éléments de réponse. Si vous voulez, la modernité, c'est d'abord un discours qui se développe précisément en Europe, d'abord au 19e siècle, avec des temporalités distinctes en fonction des régions et des acteurs qui vont s'emparer de ce discours. Et c'est un discours qui précisément porte sur la singularité, le caractère exceptionnel de l'Europe dans l'histoire du monde. Et donc le rôle que doit jouer notamment l'Europe dans le devenir de ce monde. Alors, ce qui est intéressant, donc, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques de cette modernité, parce que la modernité, par définition, pour un historien, pas pour un philosophe, pour un sociologue, ça sera encore différent. Pour un historien, c'est une boîte noire dans laquelle on peut tout mettre. Alors, la modernité, c'est, vous le savez, ça peut être l'accélération, la vitesse, c'est l'art moderne, c'est-à-dire le fait que l'invention devient un critère de l'inventivité devient un critère de référence artistique, alors que jusque-là, jusqu'au 19e siècle, c'est l'imitation du réel, l'imitation la plus parfaite qui est pour le coup, le modèle et la référence absolue dans les arts. Donc, en réalité, pour chaque domaine du savoir, de la connaissance, des pratiques sociales, on pourrait, et chacun a sa définition de la modernité, on pourrait tenter de caractériser cette modernité. Bon, donc ça donne lieu à des débats sans fin. Est-ce que la modernité, c'est de coloniser? Est-ce que c'est la mission civilisatrice? À l'époque, oui, c'est la mission civilisatrice, c'est-à-dire de civiliser, entre guillemets, le reste du monde. Bon, on sait aujourd'hui que, évidemment, il faut prendre cette notion de mission civilisatrice avec des pincettes, qu'elle est ambivalente, complexe, etc. Donc, ce qui intéresse les historiens, c'est pas tellement de donner un contenu rationnel à ce concept, mais c'est plutôt de comprendre comment, en reprenant au mot cette notion de modernité forgée d'abord par les Européens, il a existé ce qu'on appelle des modernités multiples ou des modernités alternatives. Et donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dans l'historiographie, dans les travaux des historiens à partir de la fin du XXe siècle, qui ont essayé de montrer qu'en fait, lorsqu'on s'intéresse à d'autres régions du monde, on observe d'autres modernités, et qui ne sont pas d'origine occidentale. au même moment, au 19e siècle précisément. Alors, quelques exemples de modernité du 19e siècle qui ne seraient pas occidentales. Bah, par exemple, le fait que la sultane de l'état de Bhopal, c'est-à-dire le Maharaja, si vous voulez, ou le Nizam, pour utiliser le terme qui correspond, c'est-à-dire des souverains musulmans, vous savez, dans ces états, des Maharajas et des souverains musulmans de ce qu'on appelait l'Inde britannique, mais qui en fait n'était pas simplement dominé par les Britanniques, et qui était aussi sous administration indienne, donc sous l'administration de ces différents souverains et souveraines, dans le cas de cette sultane de Bhopal dans le nord de l'Inde, eh bien la sultane de Bhopal, dans les années 1860-70, eh bien elle résiste à l'influence culturelle et politique britannique. Les Britanniques entourent son sultanat, de certaine façon, et elle met en place toute une série de réformes que nous pouvons qualifier a posteriori de modernes. C'est-à-dire, par exemple, une politique féministe, selon nos propres critères du début du XXIe siècle, c'est-à-dire que sans s'inspirer des suffragettes qui commencent à prospérer en Grande-Bretagne, mais qui seulement commencent à se mobiliser en cette fin du XIXe siècle en Grande-Bretagne, eh bien, elle va puiser dans les traditions islamiques. Donc on peut interpréter les textes de façon extrêmement diverse. Et là, en l'occurrence, elle va interpréter un certain nombre de textes musulmans de façon à, par exemple, interdire la polygamie, interdire l'infanticide des jeunes filles, enfin des bébés filles, des petites filles, et mettre en place toute une série d'institutions scolaires pour les filles. Bon, c'est un exemple de modernité alternative. Un autre exemple de modernité alternative, ce sont par exemple les fameuses cartes à bâtonnets que nous avons retrouvées dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique, et bien dans les îles Marshall par exemple. Les historiens ont retrouvé, vous savez, ces fameuses cartes à bâtonnets, elles datent de la fin du 19e siècle. Mais en fait, c'est un système qui est pluriséculaire, qu'on utilisait au 17e, au 16e siècle. Ce sont les cartes qui sont faites avec des bouts de bois, donc des cartes marines, qui permettent en fait aux populations mélanésiennes et polynésiennes également de voyager dans le grand océan depuis des siècles en localisant par exemple les terres, les îles, sans les voir, tout simplement avec la réfraction de la houle. Bon, c'est un système extrêmement complexe et c'est une modernité alternative. Pourquoi ? Eh bien parce que nous savons depuis peu qu'il repose ces systèmes cartographiques sur des modèles mathématiques très compliqués qui ont été étudiés par les mathématiciens américains et européens ces dernières années et dont on ignorait la subtilité en Europe au 19e et a fortiori au 18e et 17e siècle. Donc vous voyez qu'il y a là des traditions qui n'ont rien à voir avec l'Occident. On pourrait par exemple parler du féminisme japonais qui se développe sous l'ère Meiji, c'est-à-dire dans les années 1870-1880, dont on pensait qu'il s'inspirait des modèles français et états-uniens, et dont on sait maintenant, grâce à l'ouvrage de Pierre-François Souéry, que je vous encourage à lire pour ceux qui s'intéressent au Japon, l'ouvrage s'intitule, la thèse est dans le titre de l'ouvrage, « Moderne sans être occidental ». Bon, c'est un des plus grands spécialistes du Japon aujourd'hui, qui enseigne à l'Université de Genève, et précisément, eh bien, il nous explique qu'il faut revenir sur les traditions littéraires et philosophiques anciennes japonaises pour bien comprendre le développement de ce féminisme. Voilà, ce sont quelques exemples de modernité alternative qui intéressent beaucoup les historiens aujourd'hui.
C'est très intéressant parce que cela m'évoque un parallèle que l'on peut faire et que vous qui est évoqué dans l'une des notices de l'ouvrage sur comment la notion de modernité, donc là qui est revisitée au 19e siècle, comme vous le mettez en évidence, les savoirs médicaux. Les Espagnols, lorsqu'ils arrivent au XVIe siècle en Amérique, sont passionnés par les savoirs médicaux indiens qui, par bien des aspects, permettaient d'avoir une pharmacopée largement en avance sur, finalement, les Européens. Et on retrouve là aussi, chez les Jésuites, qui parcourent le XVIe siècle, le Brésil ou les montagnes andines, toute une sorte de fascination pour des remèdes et une pharmacopée américaine, enfin amérindienne, largement en avance, et eux-mêmes ne cachent pas une forme d'admiration qui marque une forme de frustration qui est vécue comme une sorte de retard. Alors c'est intéressant de voir ces décrochages chronologiques qui montrent bien que finalement c'est le contact entre aussi des Européens et le monde, et à travers votre appréhension finalement du monde au XIXe siècle, j'ai envie de vous demander dans quel sillage aussi vous inscrivez cet ouvrage, parce que bien sûr, quand on prend l'histoire du monde au XIXe siècle, on ne peut pas ne pas penser bien sûr à l'histoire du monde dirigée par Patrick Boucheron au XVe siècle. Finalement, moi, ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est qu'au-delà du seul XIXe siècle, vous ouvrez un pont quelque part avec des périodes précédentes, une mondialisation qui a déjà commencé avec l'arrivée des Portugais à Ceylan qui ramènent le poivre, etc. Finalement, dans quelle filiation historiographique, puisqu'il y a le temps, il y a l'espace, là vous embrassez le monde et le globe, et le tour de force est vraiment de pouvoir parler de l'ensemble du globe, mais finalement, dans quelle filiation un petit peu historique, finalement, sans être dans l'histoire globale, écrire une histoire du monde qui offre une porte vers une époque plus ample. Dans quel sillage, finalement, inscrivez-vous votre ouvrage ?
Alors, il y a évidemment plusieurs sources d'inspiration. Alors, vous avez évoqué Patrick Boucheron. Il se trouve qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la contingence dans les projets intellectuels, parce qu'on a tendance à reconstruire a posteriori des généalogies extrêmement flatteuses. Et voilà, l'origine de projets comme cela...
Comme le roi de France au XVIIe.
Ouais, exactement, voilà. Là, en l'occurrence, bah, c'est assez... Bon, de façon très prosaïque, Patrick Boucheron était mon collègue à l'Université Paris 1 avant d'être élu au Collège de France. Et donc, dès 2009, c'était le cas aussi de Sylvain Venner avant qu'il soit élu à l'Université de Grenoble. Et donc, nous étions en dialogue, tous les trois, sur cette question de... l'histoire globale ou l'histoire mondiale, on pourra revenir si ça vous intéresse sur ces questions de dénomination, mais c'est clairement cette rencontre et la parution de l'histoire du monde au XVe siècle, vous avez raison, en 2009, qui a été un déclencheur, puisque ce projet, peut-être qu'on peut le redire très rapidement, il a été proposé à un éditeur qui se trouve être Fayard dès 2010. Donc il a fallu plus de 7 ans de travail pour qu'il aboutisse. Et c'est une particularité, puisque l'histoire mondiale de la France, que j'étais venu présenter il y a quelques mois, avait nécessité 8 mois de travail. 8 mois de travail intensif, mais il y a là 2 temporalités bien différentes. Et donc, cette histoire du monde au XVe siècle pour Boucheron a été une source d'inspiration, et en même temps, ça a été... il y avait d'emblée une nécessité de se différencier de ce projet, puisque... Chez Boucheron, il y a d'abord la beauté du geste qui est décider totalement arbitrairement de travailler sur le XVe siècle. XVe siècle, ça n'a aucun sens, pour le coup, aucun sens pour personne, pour les contemporains, évidemment, pour les témoins, les acteurs de l'époque, et puis pour les historiens, c'est très compliqué, parce que, et c'est là qu'il y a une parenté avec le projet de Boucheron, c'est que Boucheron voulait faire un sort d'une certaine façon à la notion de Renaissance, qui obsède l'historiographie. Là encore, c'est quelque chose qu'on a bien étudié à l'école. Et l'idée n'est pas de dire que la Renaissance n'a aucun intérêt. Au contraire, évidemment, qu'il faut étudier la Renaissance. Mais évidemment, lorsqu'on change d'échelle et qu'on s'intéresse au monde dans sa totalité, eh bien, on s'aperçoit que la Renaissance n'a concerné qu'une toute petite partie des élites européennes, hein, et qu'elle n'a pas, pour le coup... intéressé, concerné, impliqué le reste du monde. Et d'où, dans l'ouvrage de Boucheron, hein, ce décentrement par rapport à la Renaissance, hein, qui devient, si vous voulez, un phénomène beaucoup plus marginal à l'échelle mondiale. Bon, nous, on a procédé de la même façon, vous l'avez compris, par rapport à ce concept de modernité. Et donc, on s'est inspiré de la structuration de l'ouvrage de Patrick Boucheron, qui est très fragmentée, d'un point de vue thématique. Il y a une grande partie donc, sur les grands thèmes de l'histoire du monde au XVe siècle, qui nous a inspirés pour cette partie sur les grands moteurs de l'histoire du XIXe, que sont colonisation, urbanisation, industrialisation, etc. Il y a une partie dans l'ouvrage de Patrick Boucheron qui porte sur les grandes provinces du monde. Et donc là aussi, ça a été pour nous l'occasion de décentrer l'Europe, ce qu'on appelle... plus précisément maintenant, de provincialiser l'Europe. C'est-à-dire que le monde est divisé arbitrairement, plus ou moins arbitrairement, puisque ça va vous parler, en 10 aires culturelles, avec l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le monde russe, le monde indien, etc., etc. Et donc ça nous permet, si vous voulez, d'étudier l'Europe, bien entendu, l'Europe que vous connaissez bien, mais d'accorder autant d'importance, par exemple, à ce que nous connaissons peu ou pas du tout, d'ailleurs, l'Océanie, par exemple, au XIXe siècle, bon, qui fait l'objet d'un chapitre au même titre que l'Europe. Alors je ne vais pas vous détailler les difficultés qu'a pu avoir l'auteur du chapitre sur l'Europe, qui a été le plus difficile à rédiger, c'est-à-dire l'Europe au XIXe siècle, hein, c'est un casse-tête incroyable, donc c'est Quentin de Luermoz qui a dû s'y coller, et il nous a rendu 4 copies successives, parce que c'est véritablement une mission impossible, puisque, et d'ailleurs c'est pourquoi il n'existe pas d'ouvrage véritablement sur l'Europe au XIXe siècle. Donc là il y a vraiment déjà dans le livre lui-même un défi hein, que ce chapitre sur l'Europe, puisqu'il a dû lire hein, des dizaines d'articles et d'ouvrages sur cette question-là. Et alors, il y a une modification, si vous voulez, par rapport à l'ouvrage de Boucheron, qui, on pourra y revenir tout à l'heure, mais Boucheron avait choisi de traiter cette histoire du XVe siècle de façon, on peut le dire, assez classique, en adoptant la forme de la bibliothèque pour sa troisième partie, donc la bibliothèque du monde au XVe siècle, où il choisit donc de présenter un certain nombre d'ouvrages fondamentaux du XVe siècle, ou d'ouvrages imprimés, de livres du XVe siècle. Et alors, pour nous, évidemment, c'était un péché d'européocentrisme, la forme livre, puisqu'il y a au XVe siècle, comme au XIXe siècle, toute une série de cultures et de sociétés où prévalent les traditions orales. Et donc, ça n'a pas de sens, par exemple, dans le monde océanien, de choisir des livres. Hein. Et donc, nous avons plutôt adopté un autre type d'objets, en l'occurrence, hein, qui pouvaient être le dénominateur commun entre tous les habitants de cette planète du XIXe siècle, eh bien, ce sont précisément les objets qui circulent, ou les matières premières, hein, qui concernent beaucoup plus de monde, évidemment, que les livres. Donc là, il y a un déplacement par rapport au travail de Patrick Boucheron.
Merci. Alors, il y a aussi une autre singularité de l'ouvrage, ceux qui l'ont feuilleté l'ont déjà remarqué. Vous réalisez le tour de force qui serait bien impudent pour d'autres collègues d'autres pays. Vous avez choisi des auteurs qui sont tous français, francophones. Et ici, il y a un parti pris éditorial, mais aussi scientifique, finalement, que vous justifiez dans votre introduction. Finalement, vous prenez des historiens français. Et j'ai envie de vous demander, finalement, en quoi cette histoire du monde au XIXe siècle est-elle différente de celle qu'aurait pu écrire, je ne sais pas, votre alter ego américain qui aurait regroupé autour de lui des spécialistes de différentes universités américaines ou un collègue anglo-saxon, quel qu'il soit. Qu'est-ce qui distingue finalement une histoire du monde écrite par des historiens français de celle qui aurait été écrite finalement par des historiens d'autres pays du monde ?
Alors, d'abord, je dois dire qu'il y a quand même quelques auteurs étrangers qui représentent peut-être 10% du sommaire, parce que pour certains chapitres, et notamment...
C'est compliqué de trouver...
Voilà, c'était assez compliqué de trouver des auteurs francophones. Et puis, il y a un certain nombre de clins d'œil, c'est-à-dire qu'on voulait solliciter Kenneth Pomerantz, qui est un immense historien et une référence de l'histoire globale, qui est professeur à Chicago, pour rédiger un chapitre qui, là encore, est extrêmement difficile à écrire sur l'Asie orientale, hein, Chine, Japon, Corée. Bon, donc il y a quand même quelques exceptions, mais vous avez raison. Dans l'introduction, nous rappelons le fait que c'est une histoire écrite principalement par des francophones dans un cadre particulier qui est celui d'une géopolitique du savoir qui nous est défavorable. Qui nous est défavorable, quand je dis nous, c'est nous les Français, nous les francophones plus largement, et notamment dans ce courant de l'histoire mondiale et de l'histoire globale, dont il faut savoir qu'il est aujourd'hui dominant, qui donne le « là » à l'échelle planétaire, bon, alors pas forcément en France, hein, mais en tous les cas à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne. C'est un courant historiographique qui est moteur. Et donc ce rapport de force historiographique nous est très défavorable aujourd'hui, car eh bien, les grands auteurs anglophones ne nous lisent pas, ou du moins, s'ils nous lisent, ils ne nous citent pas. Bon, ce qui est quand même problématique, dans leur bibliographie, dans leurs notes, etc. Alors que les auteurs francophones, eh bien, lisent les travaux, notamment les travaux anglophones. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser, parce que quand on discute, j'ai présenté le livre à plusieurs reprises, à deux reprises, en présence de collègues germanophones, des collègues allemands, des collègues aussi suisses-allemands, qui à chaque fois m'ont dit « oui, oui, votre remarque est très juste et pertinente, mais il n'empêche que les Français lisent très peu les auteurs allemands, à quelques exceptions près, c'est-à-dire les antiquisants, quelques médiévistes,
et quelques
modernistes, voilà. Mais c'est quand même très marginal, et notamment chez les contemporanistes, à l'exception de ceux qui sont spécialistes de l'espace germanique. Alors que l'école historique allemande est extrêmement riche, extrêmement dynamique, notamment dans ce courant de l'histoire globale. Donc, vous voyez, bon. Donc pour en revenir à la question précisément que vous posiez, eh bien, il ne s'agit pas pour nous d'illustrer une forme de nationalisme scientifique en disant bah, « nous sommes Français, la France d'abord, etc., préférence nationale », donc ça n'aurait aucun sens, évidemment, du point de vue des savoirs qui circulent. Et en même temps, il s'agissait pour nous, d'où votre question, d'illustrer, de faire connaître un certain type d'histoire, parce que Fayard envisage une traduction en anglais depuis... disons, depuis le début du projet. Et c'est important pour nous parce que, là encore, évidemment, il faut manier cette notion de tradition historiographique nationale avec des pincettes. Hein. Dire que les historiens feraient de l'histoire, les historiens français feraient, écriraient une histoire différente de celle des Allemands, des Anglais, des Indiens ou des Japonais, bon, on voit bien que c'est une question qui est stimulante. Mais enfin, il ne faut pas verser dans l'essentialisme ou le culturalisme, hein, bêta, qui gommerait les diversités internes à chaque historiographie, puisque quel est le point commun aujourd'hui en France entre quelqu'un qui, je ne sais pas, pratique une histoire extrêmement littéraire, et de l'autre, quelqu'un qui ferait une histoire quantitative, hein, une histoire, par exemple, économique ou sociale, hein, qui serait extrêmement, disons, qui serait... étayé par des analyses de séries chiffrées, etc. Bon, on peut dire que ce n'est pas du tout la même histoire, parfois même ce n'est pas exactement le même métier. Hein. Mais si on met ça de côté, pour répondre à votre question, la question que vous avez posée, on peut dire que oui, il y a chez nous la volonté de nous différencier d'un certain nombre de travaux, et notamment des deux grandes histoires qui ont été proposées dans les années 2000 par, d'un côté, un Anglais, Christopher Bailey, et de l'autre, un Allemand, Jürgen Osterhammel, qui nous ont proposé deux très grandes histoires du monde au XIXe siècle, très intéressantes, mais qui sont à chaque fois des méta-récits. Des méta-récits, c'est-à-dire un grand récit qui commence avec un début, une fin, naturellement, et qui sont à chaque fois écrits, non pas à la première personne, mais par un seul auteur qui va mobiliser, évidemment, des sources de seconde main, donc des travaux écrits par d'autres historiens, et donc qui n'ont pas accès eux-mêmes à la matière des archives, qui n'ont pas accès non plus aux langues. Parce que là, l'avantage de cette histoire du monde, c'est d'abord bon, qu'elle cherche à être accessible, ce qui n'est pas forcément le cas des historiographies précédentes, c'est-à-dire qu'elle a été écrite. Et là, c'est vrai que c'était aussi un effort du côté de l'éditeur, de chez Fayard. C'est-à-dire, c'est 8 ans de travail, c'est-à-dire c'est 8 ans aussi de réécriture des textes, hein, pour qu'ils soient vraiment à la fois clairs, accessibles, entraînants pour les lecteurs, un minimum, hein, qu'ils se lisent comme des petites intrigues à chaque fois. On pourra revenir sur ce point tout à l'heure. Donc c'est un ouvrage qui est destiné à un grand public éclairé, et non pas à nos collègues universitaires ou uniquement aux enseignants du secondaire, qui sont évidemment concernés, mais ça n'est pas le seul public. Et donc, cette volonté de mobiliser à chaque fois, pour chaque sujet, des historiens bah, qui ont les connaissances des langues, des territoires, des populations étudiées, qui ont fréquenté les archives. Hein, et pour raconter des histoires, on a beau dire, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Y compris pour raconter des anecdotes. Bon. Et donc, cette histoire, on pourrait considérer que c'est une histoire qui n'est pas surplombante, comme l'est bien souvent l'histoire, par exemple, états-unienne, hein, c'est l'histoire globale américaine, par exemple. C'est une histoire qui est volontiers, qui s'effectue par le bas, et qui, alors, pour utiliser un mot, disons, qui est un peu galvaudé aujourd'hui, une histoire compréhensive. compréhensive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre les rapports de force, la géopolitique, l'histoire économique, ça c'est fondamental, on ne peut pas en faire l'économie, si je puis dire. Donc c'est une histoire qui est une histoire aussi sociale, mais une histoire compréhensive, c'est-à-dire qu'une histoire qui prend en considération le point de vue des acteurs et leur expérience du monde. Leur expérience du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ben, là où un certain nombre d'auteurs anglo-saxons considèrent que le 19e siècle, c'est l'histoire de la mondialisation, d'une mondialisation inéluctable, c'est-à-dire d'une intégration progressive du monde, son unification, sa transformation, etc. Eh bien, une histoire compréhensive par le bas, eh bien, qui serait plutôt française, mais pas seulement. Hein, c'est là où il faut évidemment faire attention à ce type d'essentialisation et de généralisation. Une histoire compréhensive, eh bien, n'hésite pas à dire, eh bien, non. Il y a tout un tas d'acteurs qui n'ont pas conscience de vivre dans le monde ou dans le même monde que, par exemple, les Européens. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont indifférents au monde, ou du moins pour lesquels le monde ne correspond pas à ce que nous appelons, nous, la planète, que vous évoquiez tout à l'heure. Bon. Et donc, évidemment, ça change notre perception de cette histoire du monde, cette vision plus compréhensive, si le terme n'est pas totalement satisfaisant, il nous donne quand même une idée de ce que pourrait être cette approche un peu plus française.
Oui, pour synthétiser, comme dans une transition avec le temps suivant sur le plan et la composition même de l'ouvrage, en fait, je crois que ce que vous proposez là, ça n'est pas une histoire écrite par des francophones, c'est une histoire écrite, certes, par des francophones, mais dont pas l'idée que le français ou la France serait porteur d'une méthode spécifique ou particulière. Mais je crois qu'il y a aussi une question de génération. Hein. Je crois que c'est un peu la nouvelle manière d'écrire l'histoire du monde. Et des mondes. Et finalement, à travers des... Parce que c'est... On le voit pas tout à fait, sauf lorsqu'on connaît, bien sûr, les noms pour des spécialistes qui sont... Bien sûr, c'est que à chaque fois, ce sont des spécialistes d'un thème. Vous n'avez pas pris un spécialiste global, une sorte de grand pont. Vous avez pris sur chaque thème un spécialiste, le spécialiste du thème qui, en trois pages, doit synthétiser le thé au 19e... les colonisations, etc. À chaque fois, c'est le spécialiste. Et donc, finalement, c'est davantage l'idée d'une spécialisation qui passe moins par la langue ou par l'identité culturelle, ce qui serait une identité culturelle, que par véritablement la spécialisation. Et ça n'apparaît pas à l'œil non averti.
Alors, peut-être juste pour préciser ce que vous disiez, vous parlez de génération, vous n'avez peut-être pas totalement tort. Il y a cette histoire des générations depuis... l'institutionnalisation de l'historiographie française, il y a des phénomènes de génération. Mais quand même, je tiens à préciser que dans cet ouvrage, voilà, parmi les meilleurs articles et les meilleures contributions sont écrites par non pas des grands anciens,
les historiens d'expérience,
mais si vous voulez, voilà, nos professeurs. C'est-à-dire que quand vous dites historien d'expérience, j'allais dire des monstres sacrés. C'est-à-dire que Alain Corbin nous livre une introduction. Formidable. Georges Vigarello, Christophe Charles a écrit l'épilogue. Donc, si vous voulez, bon, il y a quand même toutes les générations sont présentes hein, et elles enrichissent, elles s'enrichissent mutuellement, naturellement. Hein.
Tout à fait. Alors, le plan d'ouvrage, je crois qu'il faut y revenir parce que c'est ce qui signe aussi l'une des singularités de votre livre. Alors, je vais les citer. Dans un premier temps, vous évoquez l'expérience du monde, une sorte de survol de grandes questions qui sont auxquels on s'attend lorsqu'on pense au 19e siècle. Ensuite, dans une deuxième partie, vous évoquez les temps du monde à travers des dates, 1804, Haïti, 1863, la création de la Croix-Rouge, 1899, le début de la guerre des bourgs. Et puis, dans une troisième partie, vous évoquez le magasin du monde, c'est-à-dire tous ces produits, le thé, les estampes, les fripes, le fusil, l'ivoire. Et dans un dernier temps, le monde en ses provinces, c'est donc ce fameux décrochage d'un monde vu depuis ses provinces. Alors, j'ai posé une question un petit peu polémique. Ce livre qui embrasse donc finalement différentes manières d'aborder et d'accrocher le 19e siècle rompt avec un débat auquel on a tous été témoins depuis la rentrée, voire un petit peu de temps, la chronologie contre le thématique contre la chronologie. Et finalement, j'ai envie de dire, vous avez une manière de vous asseoir sur la question qui est assez, assez emblématique, c'est que vous faites les deux et au-delà. Est-ce que là, c'est un parti pris? Est-ce que c'est simplement le travail et les méthodes des historiens aujourd'hui qui vous conduisent finalement, que cette question n'intéresse finalement pas tant les historiens que ça, puisque vous la dépassez, mais allègrement? Ou est-ce que c'est, ça a été un parti pris de ruinons cette question? Est-ce que c'était conscient ou inconscient finalement de sortir de l'opposition entre la chronologie et le thématique? Ceux qui voudraient un ouvrage chronologique en seraient pour leurs frais, et ceux qui voudraient un ouvrage thématique en seraient aussi pour leurs frais. C'est aussi l'aspect séduisant de la composition du livre.
Oui, alors il y a plusieurs façons de vous répondre. Il y aurait une réponse, disons, épistémologique, et puis une réponse pratique, éditoriale. La réponse pratique, c'est que lorsqu'on s'adresse à un large public ou qu'on souhaite s'adresser à un plus large public, les sommes telles qu'on les rédigeait et telles qu'on les concevait jusqu'à la fin du XXe siècle ne peuvent plus fonctionner sous la forme du grand méta-récit dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que le lectorat, et j'en suis, c'est comme ça que je perçois les choses, donc vous me donnerez votre sentiment peut-être dans un instant, veut s'approprier lui-même l'objet, l'objet monde, l'objet 19e siècle en l'occurrence, et cette multiplicité des entrées permet précisément de s'approprier cet objet-là en reconnectant soi-même. Et vous n'êtes pas, vous allez voir qu'il y a tout un tas de parcours possibles, mais c'est à chaque lecteur de les inventer, hein. Donc vous pouvez connecter des dates à des objets, à des thèmes, etc. Et ça se fait à des régions, et ça se fait assez aisément, hein. Donc c'est évidemment une façon de parcourir l'ouvrage qui est, pour le coup, là aussi c'est un terme galvaudé, mais interactive. C'est-à-dire que ça induit, si vous voulez, une participation du lecteur qui n'est pas qui se fait sans effort, hein, d'une certaine façon. Et puis ça, c'est aussi adapté, il faut le dire, aux conditions de l'époque. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps, personne aujourd'hui ne peut consacrer les trois prochaines semaines à lire in extenso un ouvrage. Voilà. Vous avez chacun 15 minutes, une demi-heure, une heure à consacrer chaque jour à un livre. Et là, en l'occurrence, ce livre, vous pouvez le conserver pendant 30 ans, le céder à vos enfants, par exemple. Eh bien, ils auront toujours quelque chose à y trouver. Voilà. Alors là, je suis un peu battleur là, sur ce coup-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une diversité d'approches et d'objets qui font précisément la richesse et la durabilité de l'objet. Alors ensuite, il y a la réponse épistémologique. Et la réponse épistémologique, c'est que je ne sais pas ce que Boucheron vous aurait répondu pour le 15e. Ce qui est certain pour le 19e, c'est que le 19e siècle est un siècle foisonnant. C'est un siècle discordant. C'est un siècle c'est pourquoi nous entretenons un rapport spéculaire avec le 19e. C'est-à-dire que c'est pourquoi il nous fascine encore aujourd'hui. Quand je dis spéculaire, c'est-à-dire que nous nous mirons dans ce miroir déformant qu'est le 19e siècle, qui précisément nous ressemble tant. C'est-à-dire que tout a été inventé, ou presque, au 19e siècle, de notre modernité actuelle. Il n'y a que la télévision et Internet qui n'ont pas été inventés au 19e siècle. Tout le reste, est un produit, le fruit de cette période. Et cette diversité du 19e siècle, qui, au fond, a du mal à, aujourd'hui, trouver, respecter un cadre, qui déborde le cadre. Et qui, c'est Gertrude Stein, qui est une romancière, un écrivain du début du 20e siècle et de la fin du 19e, extrême fin 19e, qui écrivait, je crois, le 19e siècle n'a pas de logique, c'est un chaos. C'est un chaos. Eh bien, le rôle de l'historien, c'est de redonner du sens et, d'une certaine façon, d'ordonner le chaos. Et c'est ce que nous faisons. Hein, c'est pas ce livre est tout sauf impressionniste. Il est extrêmement structuré. Hein, mais il est très structuré à travers des entrées multiples qui vous permettent de l'aborder de différentes façons, c'est-à-dire soit d'une façon traditionnelle, et en même temps, vous allez voir que c'est pas si traditionnel que ça, parce que ça vous permet de changer un peu votre regard sur l'histoire de l'industrialisation, par exemple, puisque c'est la première chose qui vient à l'esprit, soit, de relire le 19e siècle à travers l'ivoire, tout simplement, et vous aurez en 4 pages, cette histoire du monde à travers une intrigue, à partir d'un objet. L'ivoire qui peut vous paraître, très marginal et accessoire, eh bien, vous verrez qu'en fait, ça permet de parler de l'histoire du piano au XIXe siècle, de l'histoire de la colonisation en Afrique, de l'histoire des pratiques culturelles de la bourgeoisie européenne, etc. etc. Voilà. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, cette structure apparemment fragmentaire était la seule pour nous capable de rendre justice à ce foisonnement.
Merci. En effet, je crois que l'un des tours de force de l'ouvrage est de proposer un petit peu aussi, mais comme le fait Grusinski en partie, finalement, une histoire qui est très écrite, très structurée, mais qui aussi est très concrète et très matérielle hein, dans ce magasin du monde. Ce magasin du monde, les articles bibelots, caoutchouc, cartes, charbon, Coran, corset, daguerreotype, estampes, fauteuils, fétiches, fesses, fripes, fusils, ivoires, sont en soi autant d'objets, de matière qui évoquent finalement le 19e siècle. Et si vous voulez bien, dans un dernier temps, pour laisser bien sûr un temps d'échange avec la salle, j'aimerais revenir avec vous sur des articles qui, moi, me sont en tant que moderniste et enseignant tout à fait éclairants. C'est par exemple l'article sur le thé. L'article sur le thé, c'est passionnant, l'histoire du thé, puisque c'est un produit qui est très connu dans le monde chinois, qui est très ancien, qui est connu à la cour portugaise dès le 6e siècle, mais dont vous montrez qu'au 19e siècle, paf, ça devient un produit de consommation courante. Et ce qui est très intéressant, c'est une histoire du thé, donc le produit, la feuille du thé, sa culture, et en même temps son usage, c'est-à-dire comment on boit le thé. Et alors là, je ne veux pas tout dévoiler, je ne voudrais pas spoiler le livre pour nos auteurs, mais je veux dire, la manière de placer les feuilles dans la théière ou dans une tasse sont des singularités, l'usage même du thé. Finalement, c'est un produit de consommation courant dont la diffusion est massive au 19e siècle. Il y a aussi, je crois, peut-être vous pouvez nous en parler un tout petit peu, il y a la question des migrations, il y a l'article sur les transports. Est-ce que, comme ça, quelques focales sur quelques articles il y a eu ce très bel article sur la naissance du parc de Yosemite, par exemple.
Alors, sur le thé, peut-être quelques mots, et puis ensuite on peut passer au transport, migration, etc. Le thé, c'est un très bon exemple, parce que, donc d'abord, l'article est rédigé par Philippe Chassaigne, qui est professeur à l'université de Bordeaux 3, enfin Bordeaux-Montaigne, hein, d'histoire contemporaine, et il fait partie, je crois, de l'équipe. Donc, on a parlé de la centaine d'auteurs, il y a quand même quelques Bordelais, François-Charles Matisse, Charles-François Matisse, j'inverse toujours, Charles-François, qui a rédigé cette notice sur le Yosemite, et puis Claire Lou, qui est professeur à l'IEP de Bordeaux, qui a rédigé un très beau chapitre également sur le traité de Waitangi en 1842, vous savez, ce traité qui marque le début de la colonisation britannique en Nouvelle-Zélande. Alors, le thé, ça nous parle, évidemment, parce que ça fait partie de notre vie quotidienne, pour un certain nombre d'entre nous, et en même temps, eh bien, on peut relire toute l'histoire du monde au 19e siècle à travers le thé. C'est ça qui est fascinant, en abordant des thématiques extrêmement diverses. Alors, vous l'avez dit, vous pourriez nous rétorquer, pourquoi le thé dans le magasin du monde au 19e ? Le thé existe bien avant le 19e siècle, et vous l'avez dit. Le thé, on considère dans les traditions, les histoires, notamment de la Chine, que c'est au 3e millénaire qu'un empereur, plus ou moins mythique, aurait par hasard une feuille de thé d'un théier sauvage serait tombée dans une tasse d'eau chaude, et bien il aurait découvert le thé, développé la culture du thé, etc. Ça se diffuse ensuite au Japon, en Corée, dans le monde arabo-musulman, etc. Mais ça n'est qu'au 19e siècle que le thé devient une affaire intercontinentale, véritablement globale, c'est-à-dire qui concerne non seulement tous les continents, quasiment, enfin oui, tous les continents, notamment par le biais de la colonisation et des nouveaux systèmes de transport, puisque on parle de mondialisation précisément au 19e siècle et de cet avènement de la mondialisation, non pas parce que, eh bien, il n'y aurait pas eu de phénomène de mondialisation auparavant, mais parce que c'est véritablement la première mondialisation planétaire par les transports qui s'opère à ce moment-là, c'est-à-dire une interconnexion de tous les continents par des lignes de transport de passagers et par des câbles sous-marins qui permettent le transport de l'information et des savoirs. Et donc le T est particulièrement intéressant parce que non seulement, comme vous l'avez dit, ça nous permet de parler de pratiques sociales fondamentales, c'est-à-dire que c'est une révolution dans la vie, notamment des Britanniques, avec l'invention du tea time, hein, qui révolutionne la vie quotidienne, qui va scander la vie des gens. Hein. Et là, vous connectez avec le superbe article sur la montre rédigé par Christophe Granger, hein, c'est-à-dire qu'à partir du milieu du 19e siècle, et le 5 o'clock tea dont nous parle Philippe Chassaigne, eh bien, la vie des Britanniques est scandée par cette cérémonie sociale qui fait que, bah, par exemple, les femmes vont commencer à s'émanciper à travers le thé. C'est dingue, quand même, cette idée de l'émancipation à travers le thé dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est-à-dire que, eh bien, à partir de la consommation du thé, se développent des milliers de nouveaux lieux de sociabilité avec les salons de thé, pas seulement à Londres, partout en Grande-Bretagne, dans lesquels les femmes peuvent se rendre toutes seules, non accompagnées, hein, sans être, évidemment, considérées, regardé d'un mauvais œil par leurs voisins et leurs voisines.
C'est un petit peu le paradoxe, c'est ce que j'ai trouvé. D'ailleurs, l'histoire du thé rappelle un petit peu, on pourrait faire le parallèle avec le chocolat, le rôle du chocolat dans les cours en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qui est fascinant avec le thé, c'est combien un produit, qui fondamentalement est importé en Angleterre, un produit du XIXe siècle, devient emblématique de la culture anglaise et britannique.
Complètement.
Je veux dire, de l'ensemble de l'Empire britannique. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui tient dans tout l'Empire britannique, c'est quand même le thé. Voyez.
C'est ça.
Et quand est-ce que ça intervient? Précisément au 19e siècle. Et alors, ce qui est succulent, c'est de découvrir que c'est que dans les dames de l'aristocratie britannique, la duchesse de Bedford, il n'y a rien de plus britannique. Hein, la duchesse de Bedford, vous voyez, elle vient de Grande-Bretagne. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est de voir finalement, c'est un produit du monde qui vient, et je crois qu'il y a là une spécificité finalement à la fois du 19e siècle, mais aussi la manière de le raconter et de l'écrire. Et c'est très intéressant. Alors, on va pas faire tous les articles, peut-être un dernier avant de laisser la parole à la salle. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, parce que ça va à rebours aussi d'une conception que l'on a, par exemple, aujourd'hui, dans une actualité très récente du rapport de l'Amérique ou des élites américaines ou du président américain, sans le nommer, à l'égard du monde, la préoccupation des Américains pour la nature, eh bien, dans un article tout à fait intéressant, la naissance du parc de Yosemite en 1864, la naissance du parc de Yosemite, on voit apparaître la préoccupation pour la nature, l'environnement en Amérique. C'est-à-dire comment, finalement, cette République américaine, qui a moins d'un siècle d'existence, quelque part, finalement, est l'un des premiers États à inscrire dans son fondement juridique, etc., la protection de la nature, si vous pouvez nous en dire un mot avant de laisser la parole à la salle.
Alors brièvement, donc cet article est excellent, a été rédigé par un autre Bordelais, donc Charles-François Mathis, donc qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors il ne s'agit pas exactement de l'apparition des premières préoccupations environnementales ou de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'écologie, puisque on sait maintenant que ces préoccupations apparaissent dans un certain nombre de colonies. Au XVIIIe siècle notamment, à l'île Maurice par exemple, ça a été bien documenté et étudié par un certain nombre d'historiens de l'environnement, comme Richard Grove par exemple, qui montre comment, eh bien, par exemple, dans ces milieux tropicaux, les colonies notamment britanniques mais aussi françaises, l'érosion des sols, eh bien, suscite de nouveaux discours sur la nécessité de protéger l'environnement. Et ça rejoint ce que vous disiez très justement sur le rôle de l'expansion coloniale et des outre-mer, comme on disait il y a peu encore, lointain dans la constitution des identités nationales, de la Britishness en l'occurrence, de l'identité britannique. Là, en l'occurrence, eh bien, on voit comment ce qui nous paraît, ça rejoint nos discussions également sur la modernité. L'écologie est pour nous aujourd'hui le summum de la modernité. Ce sont des préoccupations qui apparaissent dans les colonies, hein, et qui sont ensuite réimportés en métropole. Alors précisément, une métropole qui va devenir une métropole impériale et coloniale qui ne l'est pas encore, avant que les États-Unis s'approprient les Philippines, Cuba, etc. Eh bien, en 1864, on est quand même au beau milieu, à la fin, enfin, on est encore dans la guerre de sécession, et le parc de Yosemite est créé. Et donc, à ce moment-là, c'est une des premières formes d'institutionnalisation de cette préoccupation-là et qui nous intéresse dans le cadre de l'histoire globale jusqu'à aujourd'hui parce que c'est le premier grand parc naturel qui va constituer un modèle dans le monde entier, ensuite, dont vont s'inspirer les Français, les Européens, etc., les parcs nationaux. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi, voilà, d'apparition d'une forme dont vont s'emparer un certain nombre d'acteurs aux quatre coins du monde, qui va se diffuser très, très vite. Voilà.
Je vous remercie, bien sûr,
merci à vous.
De votre présence. Merci à Pierre Saint-Garavelu de nous avoir présenté ce bel ouvrage de l'histoire du monde au XIXe siècle.